La super idée.
La super idée. Super idée. La super idée. La super idée. Éducation populaire, accompagnement de porteurs de projets, formation, émancipation sociale.
La super idée, l'émission d'éducation populaire de l'association Idée. Première diffusion, chaque troisième mardi du mois à 18h10, le mercredi suivant à 14h10 et le samedi suivant à 16h10.
Ah non, on n'est pas là pour partager les savoirs.
Ah oui, pardon. C'est pas comme si on parlait d'éducation populaire.
Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sujet d'actualité, la démocratie. Ta-da-da. Et nous sommes aujourd'hui trois en studio, Soukaina, moi-même, Adeline et un invité, Daniel. Comment ça va bien?
Ça va bien, du cool. coup, forcément.
Alors, pour commencer cette émission et savoir de quoi on parle exactement, on va revenir sur quelques définitions. La démocratie. Donc, la démocratie désigne le plus souvent un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Démocratie représentative. La démocratie représentative, le gouvernement représentatif ou le régime représentatif est un système politique dans lequel on reconnaît à une assemblée restreinte le droit de représenter un peuple, une nation ou une communauté. C'est le système dans lequel nous sommes actuellement. Démocratie directe. La démocratie directe est un régime politique dans lequel les citoyens exercent directement le pouvoir sans l'intermédiaire de représentants. État de droit. Il s'agit d'un concept juridique, philosophique et politique. Il implique la prééminence du droit sur le pouvoir politique dans un État et que tout gouvernant et gouverné doivent obéir à la loi. Il implique une justice indépendante dans l'État. Et enfin, oligarchie. Il s'agit d'une forme de gouvernement où le pouvoir est réservé à un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. Donc si on a choisi de vous relire ces termes, c'est que trop souvent, le langage politique institutionnel actuel flirte avec le flou linguistique et a tendance à rendre acceptable tout un tas de saloperies, jusque personne n'y comprend plus rien. Et je crois que Daniel avait un mot à dire à ce sujet, il paraît que tu vas nous parler de démagogie.
Oui, alors justement, tout d'abord je remercie Radio Sainte-Afrique, parce que c'est en écoutant les émissions enregistrées sur le site internet là, que j'ai découvert... l'existence de l'association Idée. Donc j'ai pris contact avec eux. Alors je remercie aussi l'association Idée qui m'a invité à participer à cette émission. Alors la démagogie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un point important dans la démocratie parce que c'est effectivement un des problèmes que pose la démocratie. Donc ce mot vient encore du grec, puisque les Grecs, c'est eux qui ont inventé la démocratie. Et puis ils ont inventé pas mal de choses, hein, les mathématiques, la philosophie, j'en passe. Donc, démos, c'est le peuple, et ago, c'est conduire. Donc, en fait, la démagogie, c'est un moyen déloyal utilisé par certains politiques pour influencer le peuple dans la direction qui les arrange. Alors, les procédés de la démagogie sont très nombreux. On n'aura pas le temps de les citer tous, parce qu'il faudrait 3 heures d'émission, ça va lasser l'auditeur et ça va nous lasser nous-mêmes. Mais... on peut dire, je crois, que presque tous ces procédés se ramènent à une simplification abusive, si vous voulez, de la réalité. Alors, ce qu'il faut, c'est mon opinion, tout le monde n'est pas forcé de la partager à 100%, mais on vit dans un monde compliqué, plein de paradoxes et de contradictions. Donc, pour s'y retrouver, c'est évident pour personne. Il faut raisonner... ce qui n'est pas toujours naturel. Bon, on dit souvent que l'homme est un animal doué de raison, mais je dirais pas toujours. Il est parfois doué de déraison. Et alors, la démocratie ne peut fonctionner que si le peuple est doué de raison, c'est-à-dire est capable de raisonner. Alors, pour raisonner, il faut faire appel aux principes de la logique qui ont été énoncés par Aristote quelques siècles avant Jésus-Christ. Alors, je suis pas un spécialiste d'Aristote, hein, mais... On va rappeler une des règles de base, par exemple, de la logique, c'est la règle dite du tiers exclu, qui dit qu'une affirmation est soit vraie, soit fausse. Alors, Aristote a raison, sa règle est en général vraie, mais la réalité est plus compliquée, car, comme toute règle, cette règle peut avoir aussi des exceptions. Donc, il est nécessaire de tenir compte à la fois, je dirais, de la règle et des exceptions. Et évidemment, c'est pas facile. Alors, je trouve que beaucoup de gens, malheureusement, ignorent les règles de la logique, ce qui les conduit à vouloir à la fois, si on veut, le beurre et l'argent du beurre, ce qui est pratiquement impossible. Mais il faudrait être logique, mais il faudrait être aussi capable de dépasser les règles quand le besoin s'en fait sentir. Alors, par exemple, mon opinion, c'est que rien n'est jamais 100% blanc ou 100% noir. Donc, croire ça, c'est simplifier les choses, et justement, ces simplifications abusives, ça ouvre la porte à la démagogie, aux extrémismes et au fanatisme. Alors, les exemples abondent, mais dans une émission de relativement courte, on n'aura pas le temps de tout citer. Alors, ce que je voudrais faire une petite remarque au sujet donc de la suite de l'émission, à la lecture du script, là. Je vois qu'on va beaucoup parler de certaines choses, en particulier des violences policières. Les violences policières existent, hein, je ne vais pas le nier, mais on n'aura pas le temps de parler de tout. C'est-à-dire qu'il y a des violences aussi, parfois, malheureusement, du côté des manifestants avec les casseurs. Alors, on n'aura sans doute pas le temps d'en parler, mais bon, je rappelle aux auditeurs qu'il y a eu d'autres émissions. Justement, il y a eu une émission de l'association ID sur, justement, les Gilets jaunes. Et j'ai trouvé cette émission très, très, très objective parce qu'on voit, justement, les aspects positifs dans ce que font les Gilets jaunes et également les aspects négatifs, quoi. Donc, ceux qui ont Internet, je vous recommande d'aller réécouter cette émission sur Radio Saint-Afrique.
Às vezes anda e às vezes diz.
C'était un titre du groupe Afrobombas.
Alors, nous avions effectivement déjà consacré une émission aux Gilets jaunes, mais ça ne nous empêche pas d'y revenir aujourd'hui. Et je crois que Soukaina, tu voulais nous lire un petit truc à ce sujet.
En effet, ouais, je vais vous lire un petit texte de Christian Delarue, publié sur Mediapart le 25 décembre 2018, et intitulé « Gilets jaunes, une démocratie de la justice sociale ». La formule la plus concise de la justice sociale reste « moins pour ceux d'en haut, plus pour ceux d'en bas ». Plus d'égalité dans la démocratie et la République retrouvée. Mais en ces mois de novembre-décembre 2018, il y a l'aspect pouvoir autoritaire, police-justice, à repousser s'agissant de démocratie et de République. Sortir de la démocratie réellement existante et sortir de la République réellement existante sont deux perspectives qui vont ensemble. À l'heure où l'on cherche par tout moyen à réprimer, comme jamais depuis 1968, il y a 50 ans donc, les Gilets jaunes, y compris celles et ceux pacifistes et non-violents en manifestation, il importe de revenir, un tant soit peu, à l'histoire pour montrer que ce sont les dictatures qui ont toujours empêché le droit de manifester, comme d'autres droits proches. Il n'y a pas de démocratie répressive et policière contre le peuple d'en bas. Le Portugal de Salazar, l'Espagne de Franco, la Grèce des colonels se sont effondrés dans les années 70 face aux luttes de libération tant contre le pouvoir religieux réactionnaire, importance de la critique religieuse, de la laïcité et du féminisme, que contre le pouvoir patronal capitaliste tout aussi réactionnaire de ces trois dictatures. Au plan du combat social et des libertés démocratiques, il importe de défendre quatre grands droits conquis jadis contre les dictatures religieuses et capitalistes susnommées. Premièrement, le droit de manifester contre le pouvoir tant politique qu'économique, le 1%. Ainsi que, deuxièmement, le droit de grève, le tout lié, troisièmement, au droit d'expression critique, y compris du gouvernement ou du président de la République, et quatrièmement, au droit de se syndiquer dans des syndicats de classe, classe laborieuse d'en bas, ou de masse, mélange des classes populaires, ou de classe et de masse, comme la CGT. Fédérer le peuple classe critique et actif contre les pouvoirs pour construire une société respectueuse des libertés démocratiques reste d'actualité. La démocratie réellement existante, très liée au capitalisme néolibéral profitant surtout aux riches, ne peut écouter et satisfaire durablement les classes sociales les plus exploitées, les plus modestes. Cette démocratie-là, qui privatise, marchandise, financiarise, libéralise, retour d'une directive en ce sens, est faite pour satisfaire le 1% d'en haut, pas le tiers-État. Les classes populaires sont constamment perdantes.
Moi, je vais vous parler de démocratie aujourd'hui, sujet compliqué. Alors, sommes-nous en démocrature, comme l'insinue l'insoumise Raquel Garrido entre deux petits fours chez Bolloré? La démocratie est-elle un truc de feignasse, comme le suppute l'empereur Emmanuel Ier, tout en se faisant cirer les pompes par Bruno Roger, dit le petit? C'est pas facile de s'y retrouver, mais rassurez-vous, je suis allé ce matin à un colloque qui avait lieu à la Sorbonne et qui avait pour thème « Vaincre le désenchantement démocratique ». Ça, je vais vous dire, ça nous intéresse à fond. Sujet sérieux, mais je dirais qu'il n'interdit pas l'humour. Par exemple, dans le module « Quel renouveau pour la vie politique ?» étaient invités Éric Woerth et Jean-Louis Borloo.
Oh oui.
Ah, c'est la bonne blague. Je suis allé voir d'ailleurs un organisateur pour le féliciter de la blague.
La blague, je ne me permettrai pas. Je ne suis pas assez, comment dire, référencé pour pouvoir apprécier ce niveau d'humour. Mais après,
Jean-Louis Borloo et Éric Woerth,
c'est quand même des gens qui... Alors, c'est vrai que c'est des gens qui ont été innovants dans leur façon de fonctionner et qui, en termes de dynamique humaine, sont quand même des gens beaucoup, plein d'énergie.
Ils sont invités pour leur dynamique humaine.
Ah oui, je le pense.
Je vois pas quoi d'autre, hein, d'ailleurs. Hein, honnêtement, la dynamique humaine d'Anne Eric Woerth, elle te saute à la gueule immédiatement. Hein. Il y a même une légende qui dit que quelqu'un l'a déjà vu sourire. Hein, vous vous rendez compte? Alors, on attaque quand même le sérieux. Avec
c'est un bon grimpeur. Hein, c'est un bon grimpeur. À Chamonix, c'est un bon montagnard.
Ah ben voilà. Mais pourquoi Woerth. Il fait pas ça, alors, Eric Woerth, au lieu de s'emmerder dans des colloques à la Sorbonne?
Vous bon, intervenez quand vous voulez.
Ça le regarde. Ça le regarde, Dédé. Attaquons le sérieux quand même avec un participant de ce colloque qui avait pour but donc, je vous rappelle, de trouver comment quoi.
Comment la faire mieux vivre qu'elle ne l'est actuellement.
Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, par exemple, une assemblée de citoyens tirés au sort qui contrôlerait un petit peu mieux les élus à l'échelle nationale?
Oui, 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 mais je pense que ça serait un petit peu trop loin. C'est vrai que ça serait la véritable démocratie, puisque la démocratie, normalement, c'est le citoyen qui l'exerce.
Ah ben voilà, du coup, c'est bon, c'est... non ?
Oui, oui.
Ah ben merde, ça y est, ben c'est bon. Allez, pause déjeuner. On a bien avancé ce matin. C'est ce que je croyais, parce que la véritable démocratie, d'accord, mais une assemblée de contrôle populaire, ça pose problème. Pourquoi ?
Dans tous les domaines, il y a toujours des personnes qui sont excellentes et des personnes qui n'ont pas le même esprit, qui seraient peut-être là pour faire passer leurs idées politiques ou leurs idéaux plutôt que de faire avancer la démocratie.
Ah bah exactement comme ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, du coup.
Ma foi, je... je ne veux pas trop en dire là-dessus.
Non, ça serait con, vu qu'on est là pour ça. Bon, alors, c'est pas grave. Il y avait des vrais spécialistes de la démocratie ce matin. Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos, hein, qu'on aime d'amour, cœur avec les doigts. Est-ce que les sondages ne sont pas un problème pour la démocratie?
Non, je ne crois pas. Je pense que là, ça fait partie des mauvais reproches que l'on peut faire. Les sondages sont une technique qui permet de faire remonter l'expression des Français. Donc,
par exemple, sur le vote utile, c'est un vote qui est un petit peu dirigé par les sondages. On regarde qui est le mieux placé et on vote pas forcément pour son choix premier.
D'abord, je pense qu'il faut plutôt saluer un vote utile qu'un vote inutile.
Bam ! Punchline de sondeur ! Bam ! Drop the panel ! Bien vu, Brissou. Alors, il était en forme. C'est vrai qu'il était en forme. Voilà. Alors, autant attaquer les vrais problèmes. La mise en examen d'Ipsos dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Là, il était moins en forme, quoi.
J'espère que c'est une plaisanterie, quand même. Hein. Non, il n'y a aucune condamnation d'Ipsos.
J'ai parlé de mise en examen.
Oui. Et alors ?
Est-ce que ça participe pas au désenchantement démocratique ?
Oui, vous relayez les soupçons de toute nature, y compris ceux qui, il y a encore une justice, n'ont ni été tranchés, ni discutés.
Oui, mais il y a une mise en examen qui existe.
Oui, il y a une mise en examen. Et vous savez aussi qu'en droit, quand il y a une mise en examen, il y a une présomption aussi d'innocence.
Ah, mais j'ai pas dit que vous étiez coupable ?
Alors, vous jouez à quoi ?
Je joue à cache-cache, Brice. Et je t'ai trouvé, je t'ai vu, toi qui vas faire des interventions sur le désenchantement démocratique, alors que l'affaire est en cours. Alors, puisqu'on parle de mise en examen, parlons directement du parti Les Républicains, avec François Baroin, hein, on le connaît bien, on l'aime beaucoup aussi, la main de l'austérité dans une voie de velours. François, on t'aime. Comment on réenchante la démocratie ?
Vous savez, on a 500 000 élus locaux, la plupart sont bénévoles, et on dit souvent qu'il faut penser global et agir local. Moi, je pense qu'il faut sûrement penser global et agir local, mais il faut faire mieux. Il faut penser local et agir global.
Badaboum ! Punchline du patron des Verts de France. Drop the liberté, égalité, fraternité. Alors, je vous avais promis de la mise en examen. Allons-y.
On sait que vous avez soutenu François Fillon jusqu'au bout. Est-ce que ça permet de réenchanter la démocratie ?
Ça, c'est l'histoire ancienne, surtout.
Oui, mais justement, est-ce que ça participe pas au désamour que les Français peuvent avoir ?
Il y a un nouveau pouvoir que le gouvernement travaille. Nous, on se bat pour nos communes et puis on essaie de faire entendre la voix de la République de proximité.
Vous fuyez un peu cette question, j'ai l'impression.
C'est surtout que je suis en retard, je suis désolé.
Ah merde, il était à deux doigts de faire une thèse, c'est quand même dommage. Satané horloge, il était pressé. Alors, il était pressé, il n'avait pas l'air si pressé que ça non plus, parce que 10 minutes après, il était encore là.
Monsieur Baroin, vous n'êtes pas pressé parce que vous êtes encore là ?
Là, vous y allez vraiment là.
Je suis encore plus là.
Allez, va vite, mon biquet. Va faire semblant que tu piges pas la montée du populisme. À défaut d'enchantement, continue le chantage. Bam ! Drop the democracy.
Merci Guillaume Meurice. Ça m'a l'air passionnant, ce colloque.
Et le monde a changé ou...
Ah ben, ça a été réenchanté. Vous avez pas remarqué ? Depuis ce matin.
Non, on parlait du nouveau monde, mais avec l'ancien monde, si j'avais compris.
Donc c'était Guillaume Meurice avec le texte « Je suis une démocratie désenchantée », donc au micro de France Inter. Alors, donc le pouvoir pour et par le peuple ne semble pas d'actualité dans notre belle démocratie française. Et on sait que certains de ses principaux acquis sont en ce moment bien mis à mal, notamment lorsqu'on porte un gilet et que il est jaune. Donc le droit de manifester, le droit de grève, le droit d'expression critique et le droit de se syndiquer sont des fondamentaux de notre démocratie. Et pourtant, qu'en est-il de ces droits aujourd'hui, en France, en 2019? À quel point est-on libre dans le pays des droits de l'homme? Voici les réponses d'Amnesty International concernant le droit de manifester. Selon le droit international, le droit de manifester ne devrait pas être soumis à une autorisation préalable. Les manifestations publiques sont donc présumées légales. Or, le droit français joue sur les mots car une manifestation doit être déclarée pour être légale. Explication. Le droit international rappelle que le droit de manifester ne devrait pas être soumis à autorisation préalable, car devoir demander une autorisation pour manifester ses opinions a un effet dissuasif un peu trop fort et limite donc l'exercice de cette liberté fondamentale. Les manifestations sur voie publique sont donc présumées légales. Mais une manifestation non déclarée est-elle illégale ? Alors là, Amnesty nous répond qu'en droit international, elle ne devrait pas l'être, mais le droit français joue un peu sur les mots. Une manifestation n'a pas besoin d'être autorisée pour être légale, mais sa déclaration est obligatoire. Donc la loi française ne le dit pas telle quelle, mais une manifestation non déclarée devient en fait illégale, ce qui revient à faire de la déclaration préalable une sorte de mécanisme d'autorisation. Donc le code de la sécurité intérieure punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'organiser une manifestation sans la déclarer ou en la déclarant de manière volontairement erronée ou trompeuse, ainsi que le fait de maintenir une manifestation après son interdiction. Mais alors, est-ce que les États ont le droit d'interdire des manifestations ? Donc les conventions internationales qui protègent la liberté d'opinion et la liberté d'expression posent des limites aux États. Pour être légitimes, les restrictions au droit de manifester doivent être prévues par les lois et nécessaires pour protéger un intérêt public, comme par exemple la sécurité des biens et des personnes, manifestants compris, mais aussi l'exercice de certaines libertés par les autres citoyens. Donc enfin, les moyens employés pour restreindre le droit de manifester doivent être strictement proportionnés au but poursuivi. Par exemple, interdire une manif est disproportionné si changer son parcours suffirait pour prévenir des risques de heurts avec des contre-manifestants ou si des moyens matériels supplémentaires peuvent être mis à disposition pour encadrer cette manifestation. Donc en France, le droit donne un pouvoir trop large aux autorités pour interdire les manifestations dès qu'elles estiment que celle-ci est de nature à troubler le sacro-saint ordre public, évidemment. Donc cette formulation laisse trop de marche aux maires et aux préfets pour interdire, car l'atteinte à l'ordre public n'a pas besoin d'être vraiment prouvée, des craintes ou un risque théorique sont suffisants. Et alors, enfin, dans quelle mesure l'utilisation de la force est-elle justifiée ? Donc l'usage de la force par la police ou la gendarmerie n'est légal que s'il est nécessaire et proportionnel. Donc par exemple, donner des coups de matraque ou des coups de pistolet à décharge électrique à un manifestant violent est illégal s'il est possible de l'immobiliser par des moyens moins violents, par exemple en le ceinturant. Battre une personne déjà immobilisée au sol est donc en principe illégal. Donc la violence de certains individus n'autorise pas les États à faire usage de la force publique contre tous les manifestants, car ce ne serait ni nécessaire ni proportionnel. Si certaines personnes commettent des violences pendant une manifestation, le droit international rappelle que cela ne doit pas nécessairement remettre en cause le caractère généralement pacifique du reste de cette manifestation. Enfin, si l'usage de la force est nécessaire en dernier recours, il doit se limiter au maximum aux personnes qui commettent les violences. S'il n'est pas possible de les cibler et que des gendarmes pacifiques et que des personnes, oula attention, que des personnes pacifiques risquent d'être touchées par accident, la police et la gendarmerie doivent dans certains cas renoncer à faire usage de certaines armes. Enfin, le droit français autorise malheureusement les dépositaires de la force à faire usage de la force au-delà de ces cas précis, notamment pour disperser des attroupements quand deux sommations sont restées sans effet et même si aucun individu dans l'attroupement ne commet de violence.
to move. And we break the glass. We are showroom dummies. We are showroom dummies.
Avec showroom de mise. Désolée pour l'accent et allemand et anglais dans la même phrase. Je fais ce que je peux. Donc la France est donc, bon, selon mon humble avis, un état plutôt répressif. Donc cela se confirme par la toute récente loi dite anti-casseurs. Donc l'info suivante nous vient du site france-tv-info.fr. Deux points, je cite. Des experts indépendants du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU ont dénoncé vendredi 15 février 2019 des restrictions graves du droit de manifester exercées par l'État français et un usage abusif de la force lors des manifestations dites de gilets jaunes dans le pays. Arié Halimi, avocat membre de la Ligue des droits de l'homme, invité de France Info ce vendredi, estime que la critique des experts est bien évidemment une remise en cause ferme de la gestion sécuritaire du gouvernement français de la crise des gilets jaunes. Pour l'avocat, la loi dite anti-casseurs est un mécanisme autoritaire et à un moment, la surdité d'un gouvernement aboutit probablement à sa perte, une chute plus précoce que prévue. Donc, la démocratie étatique à la française est relativement pointée du doigt et par Amnesty International, l'ONU et la Ligue des droits de l'homme. Mais un autre usage de la démocratie est-il encore possible? Que peut-on encore tirer de cette forme de régime?
Et oui, dans l'idée qu'on n'a pas forcément envie de vous laisser avec toutes ces bonnes nouvelles en pagaille, juste comme ça, et vous dire merci, bonsoir à la suite de tout ça, on avait envie aussi d'occasionner la réflexion, comme on l'a déjà nous en interne à IDÉ, et puis avec Daniel aussi qui est avec nous aujourd'hui. On se disait que, bon, l'exercice de la démocratie par nous-mêmes, humbles citoyens, c'est difficile à faire à l'échelle d'un pays, c'est compliqué de se dire que sur l'effectif national, notre voix a du poids. Et on se demandait, voilà, peut-être que l'une des pistes pour aller vers un sentiment d'être pris en compte et d'avoir un pouvoir et de l'exercer, c'est d'essayer d'agir à l'échelle locale. Bah, l'exemple de Saint-Afrique, donc on n'est que 8000 habitants quand même, donc c'est relativement, on est suffisamment peu et proche pour avoir l'impression qu'on peut agir. Donc il y a par exemple deux moyens que j'ai relevés, après il y en a certainement plus, hein, mais voilà, il y a au moins ceux-là. Donc on a accès aux informations, c'est-à-dire les procès-verbaux des conseils municipaux, toutes les réunions qu'ils font entre eux, les adjoints, le maire, tout ça, et ben on peut en avoir le compte-rendu et on peut les lire, on peut les demander. Ils sont dans l'obligation de nous les mettre à disposition. On peut avoir un regard sur le budget aussi de la mairie, on peut avoir un regard sur les comptes de la commune et on peut consulter les arrêtés municipaux. Et tout ça, encore une fois, les adjoints, le maire et toute l'équipe sont obligés de nous les mettre à disposition si on les demande. Encore faut-il savoir que ça existe, on est d'accord. On a aussi accès aux réunions, c'est-à-dire qu'on peut assister aux conseils municipaux. Quand on sait qu'il y en a, on peut se pointer, on peut écouter ce qui se dit en tant que... Alors évidemment que notre voix ne sera pas... Enfin, on n'a pas le droit de vote, évidemment. Mais n'empêche que, on peut quand même écouter ce qui se dit, on peut quand même donner notre avis. Et c'est quand même intéressant d'exercer ce droit-là. Il y a aussi le fait de s'engager dans des associations. Évidemment qu'on va prêcher pour notre paroisse sur ce coup-là. Mais n'empêche que l'exercice associatif est quand même un bon exercice de démocratie, puisque le fonctionnement d'une association, c'est en général, de façon très classique, un CA qui représente, un conseil d'administration qui représente les adhérents d'une association qui en lui-même élit un bureau, ou alors ça peut aussi être un fonctionnement collégial avec que des coprésidents, coprésidentes et pas forcément président, secrétaire, trésorier. Il y a cette façon de s'engager aussi dans la société est aussi une manière d'exercer d'exercer sa citoyenneté et d'exercer la démocratie. Tout ça pour en arriver à dire qu'au final, on a aussi des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que le fait de faire tout ça, ça peut nous permettre de dire qu'on est là, habitants de Saint-Afrique, par exemple. On a envie de savoir ce qui se dit, on a envie de dire qu'on n'est pas d'accord et on a envie de peser dans les décisions qui sont prises, dont on a l'impression qu'elles sont prises en dehors de nos considérations personnelles et collectives. Voilà, donc c'est cette histoire d'être un peu un garde-fou et puis d'agir aussi pour ce qui nous semble juste à l'échelle locale, qui nous paraît être une piste, voilà, pour avoir un sentiment de ressenti de démocratie.
gonna get rougher. The going is tough. It's gonna get tougher. The going is rough. It's gonna get rougher. The going is tough. It's gonna get tougher. The
Et c'est maintenant que nous allons passer à l'actualité de ID. Alors, pour commencer, le week-end des 2 et 3 mars se tiendra à Farragousse un stage d'autodéfense pour femmes avec l'association toulousaine Faire Face. L'objectif est d'apprendre à poser ses limites verbales et physiques. C'est sur inscription par mail à adeline.id12@gmail.com. Le tarif est de 50 euros les deux jours et prix libre en cas de minima sociaux. Les 4 et 5 mars, on refait la devanture du bocal et on aime vraiment les coups de main. Ce serait hyper sympa que vous veniez enlever avec nous toutes les affiches, les bouts de scotch et les trucs crado qui sont sur la devanture. Et enfin, on va bientôt publier notre planning de formation. Alors, pour le mois d'avril, avec le thème « Comment faire ensemble », nous proposerons des formations autour de l'animation de réunions, techniques et outils pour être efficaces dans le travail de groupe et la présentation de son projet. Il y aura aussi une partie sur la dynamique du groupe, comment prendre connaissance de la vie d'un groupe et de son fonctionnement, et enfin une partie sur la gestion des conflits, techniques et outils de communication et de résolution de problèmes.
En mai, on essaiera de savoir comment se faire connaître à travers la communication écrite et orale, donc apprendre à décrire son projet de façon claire, à l'écrit comme à l'oral, la communication visuelle aussi, par le biais d'affiches, flyers et des réseaux sociaux, donc valoriser ses actions de manière visuelle par la création de ces outils-là. Et la création d'un dossier de presse, donc diffuser l'information au plus grand nombre par les médias, journaux et radios.
En juin, lutte contre les discriminations, le retour. On proposera à nouveau cette formation. Donc il s'agit de prendre conscience des notions de discrimination, les repérer et lutter contre.
En septembre, ça reste à confirmer, mais en tout cas on a sollicité un financement pour ça, une formation qui s'appelle, attention c'est de l'anglais, Activism, Collectivity and Auto-Organization on Board. L'idée c'est de se questionner sur le fonctionnement des lieux collectifs autogérés ouverts au public à travers l'Europe et quelle place ils ont dans les dynamiques de leur territoire.
Octobre, retour au boulot, comment construire mon projet ? Formation de l'idée au projet, passer du rêve à la réalité, de l'envie au concret, de l'idée au projet. Formation écriture du projet, mettre en mots ce que l'on veut, expliquer ce l'on fait. Et enfin, la partie un peu plus difficile, la formation comptabilité et gestion, compter et gérer.
En novembre, on refait la formation comment faire ensemble avec animation de réunion, dynamique de groupe et gestion de conflits.
Et tout au long de l'année, sous forme d'atelier de 3 heures, on proposera de l'autodéfense administrative sur différentes thématiques. Donc ce qu'on appelle autodéfense administrative, en fait, c'est vraiment prendre le temps d'expliquer quels sont les fonctionnements de différents organismes. Donc là, par exemple, on avait pensé à la CAF, RSI, CPAM, MSA, impôts, Pôle emploi, bulletin de salaire, cotisation. Venez, ça va être super. Donc vous étiez bien dans la troisième émission de la Super Idée. Donc on remercie notre invité Daniel d'être venu avec nous aujourd'hui. Et on vous retrouve le mois prochain. Salut.
Salut.
La Super Idée.
La Super Idée. La Super Idée. La Super Idée. La Super Idée. Éducation populaire, accompagnement de porteurs de projets, formation, émancipation sociale.
La Super Idée, l'émission d'éducation populaire de l'association Idée. Première diffusion, chaque troisième mardi du mois à 18h10, le mercredi suivant à 14h10 et le samedi suivant à 16h10.
Ah non, on n'est pas là pour partager les savoirs.
Ah oui, pardon. Attends, c'est pas comme si on parlait d'éducation populaire.